Podcast de l'Avent, une lecture balsacienne pour patienter jusqu'à Noël. Le bal de Sceaux, par Honoré de Balzac, Paris, décembre 1829. À Henri de Balzac, son frère Honoré. Extrait 5 sur 24. Il prêchait les coûteux principes du gouvernement constitutionnel et secondait de toute sa puissance les jeux de la bascule politique qui permettait à son maître de gouverner la France au milieu des agitations. Peut-être M. de Fontaine se flattait-il d'arriver à la pairie par un de ces coups de vent législatifs dont les effets si bizarres surprenaient alors les plus vieux politiques. Un de ses principes les plus fixes consistait à ne plus reconnaître en France d'autre noblesse que la pairie dont les familles étaient les seules qui eussent des privilèges. Une noblesse sans privilèges, disait-il, est un manche sans outils. Aussi éloigné du parti de Lafayette que du parti de la Bourdonnée, il entreprenait avec ardeur la réconciliation générale d'où devait sortir une ère nouvelle et de brillante destinée pour la France. Il cherchait à convaincre les familles qui hantaient ses salons et ceux où il allait de peu de chances favorables qu'offraient désormais la carrière militaire et l'administration. Il engageait les mères à lancer leurs enfants dans les professions indépendantes et industrielles en leur donnant à entendre que les emplois militaires et les hautes fonctions du gouvernement finiraient par appartenir très constitutionnellement aux cadets des familles nobles de la pairie. Selon lui, la nation avait conquis une part assez large de l'administration par son assemblée élective, par les places de la magistrature et par celle de la finance qui, disait-il, serait toujours comme autrefois l'apanage des notabilités du tiers-état. Les nouvelles idées du chef de la famille Fontaine et les sages alliances qui en résultèrent pour ses deux premières filles avaient rencontré de fortes résistances au sein de son ménage. La comtesse de Fontaine resta fidèle aux vieilles croyances que ne devait pas renier une femme qui appartenait au Rohan par sa mère. Quoiqu'elle se fût opposée pendant un moment au bonheur et à la fortune qui attendaient ses deux filles aînées, elle se rendit à ces considérations secrètes que les époux se confient le soir quand leur tête repose sur le même oreiller. Monsieur de Fontaine démontra froidement à sa femme, par d'exacts calculs, que le séjour de Paris, l'obligation d'y représenter, la splendeur de sa maison qui les dédommageait des privatisations si courageusement partagées au fond de la Vendée, les dépenses faites par leur fils absorbaient la plus grande partie de leurs revenus budgétaires. Il fallait donc saisir, comme une faveur céleste, l'occasion qui se présentait pour eux d'établir si richement leur fille. Ne devait-elle pas jouir un jour de 60, de 80, de 100 000 livres de rente ? Des mariages si avantageux ne se rencontrant pas tous les jours pour des filles sans dot. Enfin, il était temps de penser à économiser pour augmenter la terre de Fontaine et construire l'antique fortune territoriale de la famille. La comtesse céda, comme toutes les mères l'eussent fait à sa place, quoique de meilleure grâce peut-être à des arguments si persuasifs, mais elle déclara qu'au moins sa fille Émilie serait mariée de manière à satisfaire l'orgueil qu'elle avait contribué malheureusement à développer dans cette jeune âme. Ainsi, les événements qui auraient dû répandre la joie dans cette famille y introduisirent un léger levain de discorde. Le receveur général et le jeune magistrat furent en butte aux froideurs d'un cérémonial qui surcréait la comtesse et sa famille Émilie. Leur étiquette trouva bien plus amplement lieu d'exercer ses tyrannies domestiques. Le lieutenant général épousa Mademoiselle Monguenot, fille d'un riche banquier. Le président se maria sensément avec une demoiselle dont le père, deux ou trois fois millionnaire, avait fait le commerce du sel. Enfin, le troisième frère se montra fidèle à ses doctrines roturières en prenant pour femme Mademoiselle Grosse-Tête, une fille unique du receveur général de Bourges. Les trois belles-sœurs, les deux beaux-frères, trouvaient tant de charme et d'avantages personnels à rester dans la haute sphère des puissances politiques et dans les salons du Faubourg Saint-Germain, qu'ils s'accordèrent tous pour former une petite cour à la hautaine Émilie. Ce pacte d'intérêt et d'orgueil ne fut cependant pas tellement bien cimenté que la jeune souveraine excita souvent des révolutions dans son petit état.